sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Messieurs les Chanceliers et toutes autres autorités éventuellement présentes ici. ce travail sur le pouvoir pur date d'il y a 45 ans. Bon, je ne vous infligerai pas un résumé de ce livre ardu. Je me contenterai de traiter le titre de ma communication, à savoir le concept du pouvoir. Plutôt que le concept de pouvoir, ce n'est pas pour le philosophe exactement la même chose. Deux mots de définition, parce qu'il faut toujours expliquer pourquoi on utilise et en quel sens on utilise tel ou tel mot. Alors, concept, pour moi, je crois être hégélien de ce point de vue, est le point où coïncide l'intelligible du réel et l'intelligé rendu possible par l'exercice intellectuel appliqué au réel. Autrement dit, il y a confusion entre un segment du réel et la connaissance que l'espèce humaine peut en prendre, compte tenu évidemment de l'horizon cognitif humain. Si on admet ce point de vue, on déduit immédiatement trois conséquences. D'abord, le concept s'identifie analytiquement, je viens de le dire, à un segment du réel, un segment discret du réel. Deuxièmement, l'analyse du concept doit dévoiler les linéaments essentiels de ce segment du réel. Et troisièmement, et c'est le plus important, le réel étant toujours disposé en trois niveaux de réalité, général, particulier et singulier, tout concept rend possible de repérer les déterminations qui permettent de passer du général au particulier et du particulier au singulier. Alors, il n'est pas absolument indispensable d'avoir compris ce que je viens de dire pour me suivre, mais bon, je procède pédagogiquement. Deuxièmement, pouvoir. Je ne pars pas du mot pouvoir. Je pars très précisément de ce qui m'intéresse, à savoir la capacité d'un acteur humain à imposer à un autre acteur humain un ordre qui sera suivi d'effet. Cette relation, je décide de l'appeler pouvoir, mais je pourrais l'appeler Schmilblick. Enfin, donc je ne me bats absolument pas sur le mot. C'est le point de réalité qui m'intéresse. Il suit de ces deux définitions que le pouvoir peut être analysé, soit en général, comme un mode de relation entre acteurs humains, ou bien en particulier, comme le pouvoir politique, le pouvoir pédagogique, le pouvoir religieux, le pouvoir dans tous les domaines de l'humain, ou encore peut être analysé au niveau de la singularité comme des relations de pouvoir dans une politie, dans une entreprise, dans un monastère, dans une université, dans un ménage, parce que dans tout groupe humain, il y a des relations de pouvoir et qu'ils sont soumises à une infinité de déterminations qui rendent chaque occurrence irréductiblement singulière. Alors, le pouvoir ainsi défini est, avec la richesse et le prestige, un bien rare par nature, qui, mobilisant des passions extrêmement fortes, est un déterminant essentiel de la condition humaine, dont il résulte ce que vous avez dit, Monsieur le Président, à l'instant, à savoir que c'est un sujet d'étude quasiment infini, puisque quel que soit le domaine que l'on aborde, il y a forcément des relations de pouvoir. Je pense personnellement, depuis, c'est pourquoi j'ai consacré pas mal de décennies à ces questions, que le pouvoir joue un rôle bien plus important dans l'aventure humaine que la richesse, qui pourtant a donné lieu et donne lieu à des études beaucoup plus nombreuses. Il y a un absent, c'est une parenthèse, déplorable, c'est le prestige. À ma connaissance, il n'a jamais donné lieu à une étude systématique approfondie, et pourtant, ce serait indispensable. Alors, j'en ai trop dit en matière d'introduction, je me contenterai d'un exposé extrêmement simple, d'une banalité qui me fait monter le rouge au front. Je commencerai par une analyse conceptuelle du pouvoir en général, avant de m'attacher plus particulièrement au pouvoir politique, en montrant comment, du concept du pouvoir, on peut déduire une typologie rationnelle des régimes politiques. Alors, commençons par le pouvoir en général. La formule générale du pouvoir pourrait être énoncée de la manière suivante. X attend de Y qu'il exécute Z. Si on admet ce point de départ, eh bien, on est conduit à la conclusion qu'on a affaire à quatre moments qui s'enchaînent successivement. Autrement dit, toute relation de pouvoir repose sur la combinaison de quatre moments. Premier moment, X attend ou veut que. Alors, qui est X ? Ça peut être un individu, évidemment, ça peut être un groupe, ça peut être une association, ça peut même être une foule, peu importe. Ce sont un ou des acteurs humains qui veulent ou s'attendent à ce que, qui veulent faire pression, avoir une influence, et ainsi de suite. Pour ce faire, X dispose d'un argument qui lui permet... ou qui lui permet, comment dire, d'attendre que Y s'incline devant ce qu'attend de lui, X. Autrement dit, il attend que Y obéisse. Deuxième moment, Y exécute Z. Alors, qu'est-ce que c'est que Z ? C'est une activité quelconque qui intéresse soit X et Y. Ça peut être un intérêt commun. Alors, Y pourrait ne pas obéir, ce qui signifie qu'il est libre. Parce que s'il ne pouvait pas désobéir, ou du moins accepter de ne pas obéir, on aurait affaire à un mécanisme. On ne parle pas de pouvoir dans la relation entre un acteur humain et une machine, par exemple. Bon, bien, ce n'est qu'une métaphore. Autrement dit, si l'argument que X met en œuvre pour conduire Y à l'obéissance ne fonctionne pas, la relation ne s'établit pas ou cesse. On en arrive à la conclusion que Y peut hésiter ou choisir entre trois attitudes. Premièrement, il n'obéit pas. Et dans ce cas, il n'y a pas de relation de pouvoir. Deuxième possibilité, il obéit. Une relation de pouvoir s'établit. Troisièmement, il désobéit. Ça devient plus compliqué, puisque deux issues deviennent possibles. La première, eh bien, c'est la dissolution de la relation de pouvoir et un retour au point de départ. Ou bien, X met alors en œuvre l'argument, ce que j'ai appelé l'argument, qui lui permet de ramener Y à l'obéissance. Si X réussit, eh bien le pouvoir est restauré, ou bien il échoue, et dans ce cas, le pouvoir est aboli sans recours. Tout cela est extrêmement simple, évident, et conduit à la conclusion que ces quatre moments qui instituent une relation de pouvoir sont une volonté équipée d'un argument, l'obéissance, la désobéissance et la sanction de la désobéissance. Alors, dans cette séquence, c'est évidemment le moment de l'obéissance qui est stratégique. Sans obéissance, il n'y a pas de pouvoir. On peut énoncer une volonté, un ordre, s'il n'est pas suivi d'obéissance, il n'y a pas de pouvoir, enfin. Et donc, la question suivante est de repérer les ressorts de l'obéissance. La volonté de X, n'est pas mystérieuse, n'est pas énigmatique, c'est l'obéissance qui est énigmatique. Qu'est-ce qui fait que des acteurs qui pourraient ne pas obéir, obéissent ? Eh bien, la réponse ne va pas de soi. L'analyse toujours conceptuelle conduit à distinguer trois ressorts totalement différents du pouvoir, de l'obéissance dans la relation de pouvoir. Premier ressort possible auquel on pense spontanément, c'est la peur. X dispose de la force, Y obéit parce qu'il a peur, il a peur de mourir, mais Y peut cesser d'avoir peur et se révolter, dont résulte une lutte à mort entre les deux. Les quatre moments sont présents. Bien entendu, je caricature en prenant les situations extrêmes. Mais cette relation est clairement repérable. Je propose d'appeler cette relation de pouvoir la puissance. Mais je ne me bats absolument pas. Si vous préférez, ça m'appellera Schtroumpf. Si vous voulez, bon, ça m'est totalement égal. Je ne me bats jamais sur un mot. Je suis nominaliste intégral sur ce point-là. Deuxième possibilité, deuxième ressort de l'obéissance. Il n'y a pas de mot qui convienne aussi bien que peur pour la puissance. J'introduirai le mot de fascination. X dispose dans ce cas de ce que les sociologues ont pris l'habitude d'appeler un charisme auquel Y est sensible. Par conséquent, Y obéit parce qu'il a confiance en X. Il s'abandonne, si vous voulez, à sa volonté, considérant qu'elle va dans le bon sens pour simplifier. Mais Y peut subir une manière de désillusion qui dissipe la fascination, dont il résulte, quatrième point, la relation est dissoute. Bon. Je propose d'appeler autorité ce deuxième mode du pouvoir. Il y en a un troisième qui repose sur le calcul. X est jugé compétent par Y pour faire réussir une entreprise collective à laquelle participe Y. Donc, Y obéit parce qu'il estime qu'il a intérêt à suivre les directives de X dans le cadre de cette entreprise. Mais Y peut tricher en jouant le rôle du cavalier seul, si vous voulez, dont il résulte deux issues possibles, ou bien l'entreprise échoue si le nombre des tricheurs dépasse un certain seuil, ou bien, si le tricheur est en dessous de ce seuil, si vous voulez, il peut être mis à l'amende ou tout simplement éjecté. Je propose d'appeler ce troisième mode du pouvoir la direction. Mais bon, je ne me battrai pas sur le mot. Ces trois modes du pouvoir ont chacun leur individualité parfaitement repérable et définissable. Mais une analyse, alors là, je passerai sur ce point essentiel, on peut montrer que chacun, inévitablement, à un moment donné, doit faire appel aux deux autres pour pouvoir devenir effectif. Autrement dit, si vous partez de la puissance, forcément, à un certain moment, il faudra recourir à la direction et à l'autorité. Et inversement, si en partant de l'autorité et de la direction, ça deviendra peut-être plus évident dans un moment. Conclusion de ce premier point, le pouvoir est un espace à trois dimensions. Puissance, autorité, direction, sur lequel les acteurs humains nouent entre eux des relations dissymétriques, les uns occupant des positions qui leur permettent d'énoncer des ordres et les autres des positions qui les inclinent à l'obéissance. Mais aucune relation ne peut être équidistante aux trois pôles de cet espace à trois dimensions. Toute relation incline forcément, soit dans le sens de la direction, soit l'autorité, soit la puissance. Je n'en dirai pas plus sur ce premier point. On pourrait poursuivre l'analyse du concept beaucoup plus loin, mais je n'en ai pas besoin pour passer à mon deuxième point, à savoir le pouvoir politique, qui tout de même doit nous occuper davantage dans ce cadre. Alors qu'il est clair que ces trois modes du pouvoir et leurs combinaisons se retrouvent, je le répète, dans tous les domaines de l'humain. Dès qu'il y a deux acteurs humains qui entrent en relation, une relation dissymétrique s'établit dans le couple jusqu'à la politique la plus vaste possible. Donc, pour le pouvoir politique, c'est le pouvoir qui s'exerce au sein d'une politique et par conséquent qui définit le régime des relations de pouvoir entre les membres de cette politique. Définition peu contestable, me semble-t-il. Eh bien, on en déduit immédiatement du premier point qu'il doit y avoir trois régimes politiques fondamentaux, conceptuellement fondés sur l'un ou l'autre de ces modes, des modes du pouvoir. Il doit y avoir un régime qui met en œuvre la relation de puissance. Je propose de l'appeler autocratique. On va voir tout de suite pourquoi. Un régime qui prend appui sur l'autorité, je propose de l'appeler hiérocratique, hiéros sacré, enfin bon. Et enfin, un régime fondé sur la direction, que je propose d'appeler démocratique, mais en y mettant des guillemets, et vous allez voir tout à l'heure pourquoi le mot est ambigu. Alors, quelques mots sur l'autocratie et la hiérocratie. Je dis la hiérocratie, le H aspiré tend à disparaître dans la diction française aujourd'hui. Moi j'y tiens, donc c'est la hiérocratie. Bon. Commençons par l'autocratie qui est le plus simple, même si le plus terrifiant. Le pouvoir ici est conquis, conservé, exercé et perdu par la force. Conquis comment ? Eh bien, par la guerre civile, par le coup de force, la révolution de Palais. Il est exercé par le recours et à la violence, mais de préférence à la menace de recourir à la violence, parce que c'est beaucoup plus économique en termes de ressources à mobiliser. Il est conservé par l'application résolue de deux stratégies fondamentales. Première stratégie, il faut atomiser le peuple, de manière à lui rendre toute coalition, d'imposer à toute coalition un coût prohibitif, si bien ce qui accule chacun au choix entre le martyr la lâcheté et le martyr. Donc, bon, le résultat, c'est la lâcheté qui gagne, et on retrouve enfin Hegel. Ils sont morts socialement pour ne pas avoir n'avoir pas voulu mourir physiquement, quelque chose dans ce goût-là, ce qui est parfaitement bien vu. Deuxième stratégie fondamentale, plus délicate à conduire, il faut injecter systématiquement dans l'appareil du pouvoir indispensable pour atomiser le peuple des défiances réciproques. Là aussi, de manière à rendre, sinon impossible, du moins très difficile et repérable, toute coalition menaçant le pouvoir. Alors, comment peut-il, ce pouvoir de puissance peut-il être perdu ? Eh bien, généralement, à la suite d'une défaite militaire, d'une révolution de palais ou d'une paralysie de l'appareil qui débouche sur une ouverture possible sur des complots ou voire des mouvements révolutionnaires. Je n'entre pas dans ces déterminations supplémentaires. Alors, on peut distinguer plusieurs sous-types. Là, c'est assez classique, non ? Un sous-type un peu anecdotique, le régime despotique, mais au sens grec du terme despotès, c'est le maître de maison. C'est-à-dire, le pouvoir est occupé par quelqu'un qui considère la politique comme sa propriété privée et qui la gère de cette manière. Alors, il y a quelques cas dans les cités antiques. La gestion peut être très convenable et très efficace. De nos jours, il y a quelques curiosités. En ce moment, il y a par exemple la Guinée équatoriale, que l'on peut considérer comme un despotisme. Moi, je ne me battrai pas là-dessus. Beaucoup plus fréquent est la tyrannie. Je retiens la définition antique qui me paraît tout à fait correcte, à savoir que le pouvoir est exercé pour satisfaire les passions du tyran. Autrement dit, c'est fondamentalement égoïste. Alors, beaucoup plus fréquente est le régime autoritaire, où une minorité monopolise le pouvoir politique, mais laisse la société se débrouiller à peu près comme elle l'entend, à condition de ne pas faire de politique. Bon. Et donc c'est généralement un régime militaire, pas toujours. Et enfin, le régime idéocratique, le pire de tous possible, où une utopie accède au pouvoir et où ses porteurs sont décidés à recourir à toutes les formes de la terreur pour l'imposer. Bon, on en a eu des exemples au XXe siècle. Bon, je n'en dirai pas plus sur ce régime assez facile à analyser dans son principe, c'est évidemment beaucoup plus compliqué à étudier dans les cas singuliers. La hiérocratie complique les choses. En effet, elle combine trois éléments, ou trois acteurs. D'une part, il y a un titulaire du pouvoir qui est transcendant. C'est Dieu, les ancêtres, le ciel, les esprits, enfin. C'est le titulaire, comment dire, nominal, enfin, du pouvoir. Mais comme il a cet inconvénient de ne jamais s'exprimer, il s'est choisi un vicaire, qui est le deuxième acteur de la relation, c'est un vicaire terrestre, et troisième acteur, des sujets qui reconnaissent et le titulaire et le vicaire. Bon. En conséquence, ce type de régime repose sur deux contrats, et des contrats au sens propre du terme où sont échangées des égalités. Un premier contrat s'établit entre ce principe transcendant et son vicaire sur Terre. Qu'est-ce qui est échangé ? Eh bien, de la part du principe transcendant, la légitimation d'un pouvoir qui, en fait, bien entendu, a été usurpé à l'origine par la force, à la suite d'une guerre civile, à la suite d'une conquête, d'un coup d'État, peu importe, et qui ensuite a essayé de se légitimer en disant « bon, c'est Dieu m'a appelé », quoi, enfin, pour simplifier. Du côté du vicaire, l'échange consiste dans la glorification ostentatoire de ce principe transcendant, ce qui est un point d'appui extrêmement efficace pour comprendre les constructions somptueuses ou somptuaires, enfin, concédées au bénéfice des dieux. Enfin, l'essentiel, les constructions religieuses ont ce point d'origine. Entre le vicaire et les sujets, qu'est-ce qui est échangé ? Eh bien, les sujets acceptent de se soumettre, donc de ne pas se révolter, et de payer des impôts. Bon. Quant au vicaire, eh bien, il s'engage à réaliser le bien commun, à savoir la paix, la justice, la prospérité et la sécurité par rapport à l'extérieur. Si les contrats ne sont pas respectés, surtout le deuxième, eh bien, des crises et des révoltes surviennent qui peuvent aller jusqu'à la subversion du pouvoir. Alors, si on voulait une illustration historique de ce mécanisme, la Chine est un laboratoire, d'autant plus que ce que je viens de dire est explicite. C'était la conception officielle du pouvoir que cette combinaison des deux contrats et le droit du peuple à se révolter si l'empereur d'aventure n'assurait pas ce que je viens de dire. Alors, à un niveau plus de particularisation croissante, deux sous-types apparaissent qui sont tout à fait essentiels à distinguer pour les histoires traditionnelles. D'un côté, il y a ce que j'appellerais la hiérocratie absolue, où les élites sociales tendent à se confondre avec l'appareil du pouvoir politique. Et d'autre part, ce que j'appelle des hiérocraties tempérées, où les élites sociales occupent des positions de pouvoir, de richesse et de prestige indépendantes du pouvoir politique. Alors, statistiquement, si vous voulez, les hiérocraties absolues sont beaucoup plus nombreuses que les hiérocraties tempérées, qui ne se rencontrent guère que, d'une part, dans des sociétés tribales, mais bon, ça remonte à une époque lointaine, d'une part, et d'autre part, en Europe et au Japon. Pour des raisons, je crois, auxquelles je pourrais faire allusion tout à l'heure. J'en viens ainsi au troisième régime fondamental, la démocratie. Son principe fondateur est extrêmement simple. Toute relation de pouvoir, en tout domaine, repose sur le consentement délibéré à obéir à des compétents supposés de la part de ceux qui estiment avoir intérêt à se ranger dans cette relation de pouvoir. Si on accepte, et je ne vois pas très bien comment on pourrait ne pas accepter ce point de départ, comme de principe, on peut en déduire au moins trois prédictions fondamentales, essentielles pour comprendre ce régime. Première conséquence, le régime est de fondation mixte, c'est-à-dire qu'il combine trois éléments distincts. Un élément démocratique, d'abord, alors au sens propre du terme, à savoir que le pouvoir n'est légitime que consenti par qui obéit. C'est-à-dire que dans ce cas, les ayants part au régime sont identiques et non pas égaux. Nous avons pris l'habitude, en France en particulier, de faire reposer la démocratie sur l'idée d'égalité. Ça n'est pas inscrit dans le concept du pouvoir, mode, direction. A égale A, c'est-à-dire tout citoyen, utilisons ce mot, est également titulaire d'une délégation de pouvoir à des compétents. Je rappelle que les lacédémoniens, qui ne sont en général pas mis en avant comme des athlètes du concept, s'appelaient entre eux homoioi, que l'on traduit toujours en français, c'est invraisemblable, par les égaux. Ça ne veut pas dire les égaux, ça veut dire les identiques, les mêmes. Les égaux, c'est hoïsoi, et pas du tout homoioi. Il faudrait dire les identiques. Or, cette société lacédémonienne, par ailleurs, en termes économiques, était parfaitement inégalitaire. Mais ça ne posait aucun problème, ça n'a rien à voir. Enfin, si. Je crois que c'est extrêmement important pour les développements idéologiques que cette idée fausse d'égalité comme au cœur et au principe de la démocratie a donné lieu. Alors, j'ouvre pas vraiment une parenthèse, mais cette idée A égale A et que tout pouvoir doit être consenti trouve sa limite dans un cas extrême et qui est loin d'être sans conséquence. Aucun enfant humain n'a jamais demandé à naître. Quelqu'un a décidé pour lui. Autrement dit, la direction ne peut pas être au fondement de la condition puérile, et les relations de pouvoir ne peuvent être que balancées entre la puissance et l'autorité. Tant on peut déduire que l'éducation, à distinguer de l'instruction, c'est-à-dire l'apprentissage du métier humain, doit reposer sur le principe qu'il convient de conduire l'enfant progressivement à la possibilité de nouer des relations de pouvoir fondées sur la direction. Éduquer en ce sens-là n'est pas une science. C'est un art extrêmement délicat que tous ceux qui ont eu des enfants à élever n'ont jamais maîtrisé. Il faut se lancer dans des traités d'éducation si on n'a jamais eu d'enfants à élever. Deuxième précision à introduire, ça va très loin, enfin bon, mais je ne m'y lancerai pas ici, il y a toute une théorie de la pédagogie, enfin, que l'on peut déduire de ce que je viens de dire. Deuxième question, quels sont les ayants droit? Qui fait partie, enfin, qui est à la source du pouvoir? Eh bien, on en déduit, il y a plusieurs réponses sont possibles, qui révèlent les trois sous-types démocratiques, si vous voulez. Première réponse possible, sont des ayants part ceux qui sont bien nés, ceux qui donnent un régime aristocratique, extrêmement rare. On ne trouve que dans les sociétés indo-européennes, systématiquement toutes, sans aucune exception, et au Japon. Autrement dit, ça doit être originaire, pour des raisons repérables, des steppes d'Asie, probablement liées, enfin à mon avis en tout cas, à une économie d'élevage ou de semi-élevage. Enfin, bon. Deuxième réponse possible, les riches, ceux qui donnent le régime oligarchique. Seuls les riches, ceux qui disposent d'un certain patrimoine ou d'un certain niveau de revenus, sont à la source des délégations de pouvoir. C'est le régime dominant, mais presque sans exception, dans toutes les cités que l'on trouve sur tous les continents, soit des cités villageoises, soit des cités urbaines. Les régimes sont toujours oligarchiques ou aristocratiques, mais c'est rare, et pour des raisons que l'on peut expliquer, mais ça ne nous occupe pas ici. Alors le modèle ici, c'est Venise, qui est l'exemple le plus parfait d'un régime oligarchique à tendance aristocratique. Et enfin, dernière possibilité, tous les habitants de la polytie sont des ayants part aux délégations de pouvoir. Il reste à régler le problème du sexe, tous hommes et femmes, et surtout le problème de l'âge. Les nourrissons peuvent difficilement voter ou participer. Et donc, quel est le seuil à partir duquel, on peut discuter indéfiniment sur ce point. Alors, ce régime, appelons-le démocratique, celui-là on peut l'appeler démocratique, si vous voulez, ne se rencontre guère que dans les bandes paléolithiques, pygmées par exemple, ou esquimaux, dans les tribus, du moins dans les tribus les plus archaïques, par exemple en Australie, dans quelques cités antiques et en Occident contemporain. Ce régime disparaît totalement au bénéfice de régimes hiérocratiques pendant les 5000 ans d'histoire traditionnelle, telle qu'elle émerge dans la documentation à partir de Sumer. Il n'y a que des régimes hiérocratiques, ce qui explique beaucoup de choses, en particulier sur le statut des religions. Alors, ce régime fondé sur l'élément démocratique, permet d'expliquer que les libertés sont analytiquement contenues dans le concept du citoyen, liberté d'opinion, liberté d'expression, d'association, d'initiative, et ainsi de suite. Ce ne sont pas des libertés qui sont attribuées aux citoyens, mais dans le concept du citoyen, ces libertés sont incluses. Enfin, bon. Je dis bien les libertés, les droits, c'est autre chose. Bon, mais ça, c'est bon. Autre précision, toute position de pouvoir ne peut être occupée que par délégation et par contrat. Je dis bien délégation, c'est pas une question de mots, mais non pas par représentation. Là encore, c'est une erreur, enfin, je crois, des révolutionnaires français, des idéologues pré-révolutionnaires, dont Sieyès, de considérer que les élus sont des représentants des citoyens. Parce que la conception derrière ce mot était que c'est la nation en miniature. Et par conséquent, cette nation en miniature est source de délégation de pouvoir. Alors que c'est pas ça du tout. Ce sont les citoyens qui sont source du pouvoir et qui choisissent des délégués pour voter des lois, pour examiner le budget, que sais-je, enfin pour assurer un certain nombre de fonctions. Deuxième élément, après l'élément démocratique, un élément aristocratique. Alors, on ne peut pas utiliser le mot, sauf si on a fait du grec et si l'on sait que aristocratique veut dire le meilleur. Alors, cet élément est introduit par le fait que les délégués sont choisis par les délégants pour leurs compétences supposées. Ce sont les délégants qui supposent que les délégués sont compétents et ils le supposent à leurs risques et périls. Ils peuvent se tromper. Généralement, ils se trompent, d'ailleurs. Ces délégations ne peuvent être qu'à titre circonscrit pour faire telle ou telle chose, qu'à titre temporaire pendant un certain temps, et à titre réversible, si le compétent supposé se révèle incompétent, il faut pouvoir s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Alors, les techniques de choix des délégants sont parfaitement circonstancielle. Le concept n'inclut aucune technique de sélection des délégués. Autrement dit, elles ne sont pas par elles-mêmes démocratiques. Elles peuvent être utilisées par les autres régimes en leur donnant un sens différent. Alors, il y a trois techniques fondamentales qui ont été mises au point. L'élection, évidemment, le tirage au sort et la cooptation. Alors, bon. C'est en fonction des circonstances et des problèmes à résoudre, on peut choisir l'une ou l'autre. Alors, pour faire plaisir au président Gattaz, qui est à mes côtés, je dirais que l'exemple parfait d'élection pure et parfaite est un marché économique pur et parfait, c'est-à-dire réglé. En effet, tout achat par un demandeur est en fait l'élection d'un offreur du bien et du produit ou de du bien ou du service qui est échangé. Autrement dit, il n'y a pas de démocratie plus parfaite que sur les marchés économiques, à condition évidemment que ces marchés soient soustraits à la ruse et à la violence. Enfin, c'est ce qu'on appelle un marché pur et parfait. C'est un argument là, enfin. Pour défendre le capitalisme qui, là aussi l'analyse conduit assez loin. Troisième et dernier élément, un élément monarchique, alors même remarque, on ne peut pas utiliser ce terme, sauf si on a fait du grec et si on l'interprète comme le pouvoir exercé par un. C'est-à-dire qu'il faut que les délégués soient équipés des moyens d'agir efficacement. Ça peut aller jusqu'à une institution comme la dictature romaine où, pendant 6 mois, en cas de danger extrême, un magistrat était délégué pour sauver la cité en prenant toutes mesures, les plus extrêmes incluses. À charge, après 6 mois, sortir de fonction et y passer en jugement pour voir s'il avait bien fait son métier et s'il n'avait pas exagéré, abusé de son pouvoir. Alors, quels sont les moyens de l'efficacité ? Eh bien, toutes les nuances de la relation entre ordre et obéissance, y compris la puissance et l'autorité. Donc, une démocratie inclut ces relations de pouvoir. Ceux qui ont fait, enfin, sont passés par l'armée savent que ça n'est pas particulièrement favorable à des relations, comment dire, harmonieuses de délégation de pouvoir du deuxième classe au sergent ou au caporal-chef. Enfin, bon, on est là dans une relation de puissance qui peut être fort désagréable. Alors, cette idée de régime mixte, incluant un élément démocratique, aristocratique et monarchique, eh bien, avait été repéré dès Aristote, explicitement, repris par Cicéron, repris par Thomas d'Aquin. Autrement dit, ça devrait être le béaba de toute analyse d'un régime démocratique. Deuxième déduction, à partir du principe fondateur d'une démocratie. Une politique démocratique est structurellement distribuée en trois espaces disposés logiquement. Un premier espace, appelons-le l'intime. C'est la sphère à l'intérieur de laquelle chaque être humain exerce sa liberté, c'est-à-dire effectue des choix autonomes, de préférence droit, sous la contrainte de la faillibilité, ou pour reprendre la très jolie formule d'Ernest Renan, c'est la sphère où chacun s'exerce à écrire son roman du bonheur. Enfin bon. Deuxième espace que j'appellerai le privé. Alors malheureusement, le mot est très ambigu. C'est l'espace où cherchent à se réaliser tous les intérêts qui exigent la coopération d'au moins deux acteurs humains. C'est en particulier le domaine où l'économique développe ses activités, mais pas seulement. Il y a du privé et donc des négociations sur cet espace privé entre des intérêts privés, collectifs, de toute nature, économiques, politiques, culturels, esthétiques, pédagogiques, etc., qui doivent être, parvenir à se combiner, à se concilier par négociations successives, de manière à éviter des conflits violents. Et enfin, troisième espace, le public, c'est l'espace consacré au bien commun, c'est-à-dire des intérêts qui figurent prioritairement dans l'intérêt de chacun, de chaque groupe et de chaque individu. C'est quoi ? Ben, ce sont les conditions de possibilité de la réalisation de tous les autres intérêts, à savoir la paix, paix au sens de résolution non violente des conflits, la justice, les lois et du droit, et de l'équité, la prospérité, les conditions communes de la prospérité de chacun, et enfin la sécurité à l'égard de l'extérieur. Troisième et dernière déduction, il y en a d'autres probablement et même sûrement, je considère que ce régime mixte disposé sur trois espaces distincts est le régime naturel de l'espèce humaine. Pourquoi cela ? Eh bien parce qu'il est ordonné à ce qui distingue l'espèce dans le règne vivant, à savoir que l'espèce humaine est libre au sens où elle dispose d'un degré de liberté génétique tel qu'elle est obligée d'inventer son humanité. La nature humaine est un ensemble cohérent de virtualités qui exige des actualisations culturelles. Autrement dit, le propre de l'espèce est d'être libre et non pas programmé génétiquement. Deuxième raison pourquoi je considère ce régime comme naturel, eh bien, il est approprié aux contraintes et à la gestion des problèmes imposés par le passage du virtuel à l'actuel. Mais c'est la première considération qui l'emporte sur la deuxième. Ce n'est pas parce que la démocratie est plus efficace économiquement, par exemple, qu'il faut la préférer, mais parce que c'est le régime d'être libre. C'est ensuite, par un bénéfice secondaire, que ça se trouve être le plus efficace possible. Pendant le dipôle américano-soviétique, j'étais, prodigieusement irrité par les arguments perpétuellement repris comme quoi le capitalisme assurait davantage la prospérité que le socialisme. C'était vrai, mais même si le socialisme, la soviétique si vous voulez, avait été plus efficace dans tous les domaines que le capitalisme ou les sociétés libérales, il fallait préférer les deux, le libéralisme et le capitalisme, parce que c'est le régime de la liberté. Et nous vivons de nouveau une période où il me paraîtrait utile, enfin, d'insister sur ce point. C'est pas parce que les Chinois nous donnent l'impression d'être très efficaces en régime autoritaire et peut-être idéocratique, il faut le préférer. Enfin, bon, c'est le régime naturel de l'espèce humaine, ça ne veut pas dire que ce soit le régime qui s'impose naturellement. En effet, il exige des conditions, que soient réunies des conditions de possibilité, et malheureusement, ces conditions ne peuvent pas être réunies de manière délibérée. Ce sont les conjonctures, les conjonctions de l'histoire qui font que ça est là. Elles peuvent être réunies. J'en ai repéré quatre, pas cinq, j'en ai repéré quatre. Première condition, il faut une pluralité de politiques en équilibre oligopolaire. Pourquoi cela? Eh bien, parce que toute unification d'une ère culturelle par la guerre résulte en régime autocratique et qui deviennent très rapidement hiérocratiques. Autrement dit, des développements démocratiques supposent qu'il n'y ait pas d'empire. Alors, c'est réuni où? Eh bien, dans les sociétés segmentaires, tribales, dans les cités, pour des raisons que je pourrais vous exposer, et puis dans les nations politiques modernes. Je pense que le destin grandiose, que je crois grandiose de l'Europe, est lié au fait qu'il n'y a jamais eu d'empire européen. Bon, ça a toujours échoué. Deuxième condition, il faut que ces politiques soient stables, et stables à l'échelle des siècles, parce que les développements démocratiques de ce régime mixte demandent de nombreuses générations pour être mises au point. Troisièmement, et c'est le plus important, il faut que l'espace privé que j'ai distingué tout à l'heure soit peuplé de centres autonomes de décision, des entreprises, des églises, des associations, des organisations de toute nature, qui soient autant de contre-pouvoirs pouvant s'opposer au pouvoir. Autrement dit, le check and balances, ce ne sont pas du tout, c'est pas la division du pouvoir, enfin, des trois pouvoirs, la distinction des trois pouvoirs. Ça, c'est très facile à manipuler. C'est le fait que dans la société civile, il y ait, je répète, je sais plus quelle était l'expression de Napoléon, là, qui m'échappe pour le moment, qui permettent de s'opposer au pouvoir politique. Et quatrième condition, c'est l'élaboration dans l'intime de vertus, en particulier d'indépendance et de dévouement au bien commun, ce qui est très loin d'aller de soi et n'est pas si facile que ça à expliquer. Alors, deux mots de conclusion, je ne sais pas si j'ai été trop long, probablement. Tous les ordres et tous les domaines de l'humain donnent lieu à des relations de pouvoir de se nouer. Et donc, toutes peuvent être analysées en termes de ces trois dimensions du pouvoir et de leurs combinaisons variées. Bon. Alors, si l'on tient par ailleurs que le politique est au centre de la condition humaine, alors les régimes du pouvoir et la guerre sont les fils conducteurs privilégiés pour l'histoire et la sociologie des aventures humaines en général et en particulier. C'est du moins une conclusion à laquelle je suis parvenu il y a quelques décennies et à laquelle je me suis tenu, non pas par préjugé ou par obstination, mais parce que ça m'est apparu comme de loin la manière la plus efficace de comprendre quelque chose au règne humain infiniment complexe et beaucoup plus efficace en termes, je répète, d'intelligibilité que le fil conducteur économique, religieux ou autre. Mais disons que c'est ma position personnelle. Merci de votre attention.